cette table une partie des anciens organisateurs de conventions. J'ai dit une partie, oui, les survivants, non, parce qu'il y a, d'autres survivants qui ne sont pas là. Je commence par le premier en date, bien qu'il ne savait pas du tout en date, il s'appelle Jean-Pierre Fontana, qui a été l'organisateur en 1974 à Clermont-Ferrand, ville gonflée, comme vous le savez, d'un festival qui, en fait, s'est avéré a posteriori ou sur le moment même, je ne sais pas, il nous l'expliquera, être la première convention française de science-fiction. Un petit peu plus loin, à sa droite, Pierre Gévard, que vous connaissez bien pour le fait qu'il dirige la revue Galaxy et qui a organisé deux conventions à Belém. Belém, comment on dit à Belém ? À Belém, comme on dit en Provence, et qui est le prochain organisateur de la convention d'Amiens. Un tout petit peu plus loin, notre ami Claude Ecken, qui a organisé une convention qui me tient tout à fait à cœur, parce que c'était la première à laquelle j'assistais, et que j'en garde un souvenir absolument ébloui, parce que c'était merveilleux. Un petit peu plus loin, mon camarade, dont j'oublie toujours le nom, Bernard, parce que je le confonds avec son co-organisateur de la convention de ce mois l'année dernière, voilà l'autre. Il s'appelle Bernard et Patrick, c'est les joyeux du lettiste. La troisième, elle, je ne la confonds pas. Lauriane, je ne la confonds pas. Et entre les deux, encore lui, décidément, vous êtes mis à quatre. C'était pas mal, quand même. C'est pas mal. À ma gauche, comme d'habitude, Raymond Minesi, surnommé sur le site, en tout cas, de la convention d'aujourd'hui, l'âme des conventions, qui a été organisateur de, il va nous le dire, parce que j'ai oublié la date, la convention nationale de science-fiction de Thionville, 17e, au Centre culturel Jacques Brel, du 19 au 1er avril 90. 90. Un petit peu plus loin, mon camarade et ami Hugo Bellagamba, qui a organisé l'Olicon, toi-même, c'est ça, Agnance, en 2000, des poussières, 8, voilà. Oui. Et là-bas derrière, on va l'appeler Fred Omerveil. Non. Fred Proventi, qui a organisé la convention de Grenoble il y a 3 ans.
Oui, 2010.
2010, il y a 3 ans, c'est ça. Y a-t-il d'autres ex-organisateurs de conventions dans la salle qui ne se sont pas manifestés, à part ceux que je viens de localiser ?
J'ai organisé la convention de Bordeaux en 1981.
Ah, voilà,
c'était plutôt la convention « C'est pas la convention, c'est moi », c'était la convention « C'est pas moi ».
Bon, ça va, le débat est lancé. Donc, et puis, il y a Jérôme, où il est passé, Jérôme ?
Il est là.
Jérôme Beau, organisateur de 3 conventions, l'une d'entre elles. On va dire 2,5, si tu veux. Oui, 2,5, tu as raison. La première à Lille-sur-la-Sorgue, il y a bien longtemps, en 2000 quelque chose, un ou deux, hein, c'est comme ça, en 2000 peut-être même. Et 2 autres dans un endroit qui était extrêmement bien nommé, parce que ça s'appelait Entraigues. Et contrairement aux apparences, on n'était pas entre 2 eaux, on était entre 2 vins, je te rappelle. Et il dit demi parce que l'une d'entre elles servait plus ou moins de remplacement ou de complément à la convention qui s'est tenue au Québec, organisée par notre ami et camarade Trudel. Jean-Louis, c'est tout. Je crois qu'il n'y a pas d'autre, sauf ceux qui...
Il y a Moumont, tenant son stand, là-bas, il y a encore Jean-Pierre Moumont.
C'est vrai, c'est juste, Lavalette, Jean-Pierre Moumont. On va donner la parole extrêmement brièvement à Jean-Pierre, parce que je le connais, Jean-Pierre Fontana, qui va nous expliquer comment tout ça a démarré.
Oui, puis je vais essayer de ne pas être trop long, mais...
mais
parce qu'il y a quand même pas mal de gens autour de la table.
Eh bien, je remercie Jean-Pierre Fontana pour son intervention fort intéressante.
Simplement, je veux dire, une convention, ça n'arrive pas comme ça, surtout quand ça n'existe pas. Donc, je suis obligé de remonter un peu en arrière dans le temps. Je dirais donc au début des années 60, où, mais là, je n'expliquerai pas pour quelle raison, j'ai créé un fanzine qui s'appelait Mercury. Et dans ce fanzine, je publiais notamment des auteurs italiens. Et en 66... d'ailleurs, Jean-Pierre Moumont, qui était encore presque un gosse, a fait partie du voyage, avec notamment Jacques Chambon, qui a été directeur littéraire chez De Noël et chez Flammarion, et qui malheureusement est décédé. Enfin bon, je passe là-dessus. Donc, comment publier des auteurs italiens ? Un jour, on m'a invité à une convention italienne, ça existait déjà, donc une convention à Carrare, où on m'avait remis une médaille, justement, pour mon effort à publier des auteurs italiens, donc en France. Ça, c'est la première chose. À cette époque-là, notamment pour Mercury, et une revue qui s'appelait Mercury Bis, qui était plus consacrée au cinéma, il se trouve que je fréquentais un petit peu les salles de cinéma clermontoises pour récupérer du matériel, pour illustrer les articles qu'on pouvait passer. Et un beau jour, en 1968, le directeur de la salle du cinéma Rio, qui était plus, je dirais, une salle de quartier, qui ne tournait que 2-3 jours par semaine, et dont le directeur faisait, comme vous avez peut-être vu ça dans La fiancée du pirate, il allait dans les campagnes projeter dans les bars ou autres des films, donc en 16 mm, me demande, bon, il savait que j'avais aussi monté un ciné-club, etc. Il me dit, voilà, moi, mon opérateur est parti, donc dans une salle de la ville où là, évidemment, il a un travail beaucoup plus important. Est-ce que je cherche un opérateur, est-ce que ça vous intéresse? Alors, je lui dis, d'abord, moi, j'ai jamais été opérateur, enfin, à la limite, je peux bien le faire, mais je dirais pas que ça m'intéresse, mais à la limite, moi, je veux bien vous dépanner. Et puis, il se trouve que le premier film où j'ai fait l'opérateur, on a dû faire, je crois, 7 entrées dans la semaine ou quelque chose comme ça. C'était une véritable catastrophe. Et c'était à peu près chaque semaine pareil, parce que, bon, il passait des films, je dirais, enfin, je me souviens de, par exemple, Jerry Cotton contre les gangs de Manhattan, etc. Enfin, bon. Et je lui ai dit, écoutez, passez-moi vos livres de recettes depuis la création de la salle pour voir un peu ce qui se passe. Et je me suis amusé à faire un graphique et je me suis aperçu que les films qui marchaient le mieux, c'était les films fantastiques. Seulement, en format 16 mm, il n'y avait pas beaucoup de films à disposition. J'ai réussi quand même à en programmer 3 qui n'avaient pas passé et on a fait un tabac. Et je vais vous dire encore une fois, alors je ne voudrais pas être trop long, mais je suis obligé un petit peu d'expliquer. Le premier film que j'ai passé, c'était Jason et les Argonautes. Et par chance,
grande chose.
Le dimanche précédent, à la séquence du spectateur, ils ont passé un extrait de Jason. Ce qui fait qu'on a très bien marché. Donc à partir de là, je lui ai dit, écoutez, il faut absolument passer en 35 mm. Donc on a récupéré des appareils, enfin je vais aller très vite, et pendant je dirais un an et demi, on s'est lancé dans une programmation axée sur le fantastique et la science-fiction, et très rapidement, d'abord il y a toute une équipe qui s'est soudée, je dirais, à l'intérieur du Rio, donc on a formé, je dirais, un véritable club, et la salle, je dirais, les recettes allant en augmentant. Bon, on a eu l'idée de faire un premier festival. Donc en 1972, on a fait un premier festival fantastique à laquelle on avait invité André Ruellan, Jacques Guamard, Jimmy Gueux, enfin je me souviens plus, enfin donc, des auteurs de l'époque. Et un festival qui a très bien fonctionné. Et on s'est dit, on va peut-être en refaire un autre. Mais on essayait en même temps de réfléchir à un certain nombre de choses. En plus, à Grenoble, il s'était fait aussi encore un festival du même genre, parce qu'il se trouve que Grenoble et Clermont ont été un peu à l'origine de pas mal de choses. Et donc, en 1973, donc l'année suivante, on s'est dit, bon ben, si on organisait, ça n'existe pas, si on organisait une convention. Et pour l'organiser, donc ça sera pour l'an prochain. Et en plus de ça, ce qu'on va essayer de faire, c'est créer un prix littéraire, parce qu'il y avait bien le prix Apollo, mais qui était toujours décerné à des auteurs anglo-saxons. Donc, pour encourager la science-fiction française, donc on a créé le Grand Prix de la science-fiction française, puisqu'on l'a appelé comme ça, hein. On a cherché, donc, des membres du jury qu'on a sélectionnés parmi des directeurs littéraires, des écrivains, des gens de notre équipe. Enfin bon, je passe sur les détails. Et la salle du cinéma nous ayant donné son accord, on a donc le festival, donc, appelons le festival pendant quelques instants, qui s'est déroulé en 1974, donc au mois de mars, a été composé d'abord en premier lieu d'un certain nombre de films, parce que avec le directeur de la salle, à l'époque on n'avait pas cherché de subvention, hein. On avait trouvé cet accord-là, sur chaque entrée il nous laissait un franc. Or, alors, je donne le détail, étant donné qu'on a fait 12 000 entrées, vous imaginez que ça nous a fait une belle somme, ce qui nous a permis d'inviter un grand nombre de personnes, etc., etc. Et puis, l'information a été relayée par la revue Fiction et puis d'autres lieux, mais peut-être pas suffisamment. Mais en tout cas, cette première convention a eu lieu. Et pourquoi on l'a appelée congrès ? Ben, tout simplement parce qu'il y avait les conventions américaines où on voulait se distinguer, on a dit on va appeler ça congrès. J'expliquerai pourquoi après, c'est redevenu une convention. Donc, cette première convention congrès, appelez-le comme vous voudrez, a donc eu lieu en 1974 avec, je dirais, une belle réussite, hein, un grand public. Enfin bon, je passe sur tous les détails. Vous avez quand même pas mal d'informations sur le panneau. Et puis, si vous allez sur le site de la Noosphère et vous allez sur mon site, vous trouverez encore d'autres informations. Bon, la convention étant terminée, on réfléchissait, est-ce qu'on fait la convention l'année suivante ? Le congrès, si vous voulez. Hein. Et puis, mais c'est quand même un travail assez considérable. Et toute mon équipe, enfin, on n'était pas très chaud pour faire ça l'année après. Et là, j'ai été contacté par Jacques Rouvérol d'Angoulême, qui me dit, est-ce que tu me donnerais l'autorisation de refaire donc une convention l'année prochaine ? Bon, je lui ai dit, eh bien, écoute, ok. Et donc, la deuxième convention s'est donc déroulée à Angoulême, avec quand même un certain nombre de spécificités. Alors, je précise quand même que jusque vers la fin des années 70, on me demandait toujours l'autorisation de faire les conventions. C'est comme ça, je ne sais pas pourquoi, mais enfin, ça se passait comme ça.
Pardon ?
On me demandait à moi.
Ah oui, à toi.
Oui, oui, oui. Alors, je reviens donc à Angoulême. Alors, je ne parle pas de la convention proprement dite, qui s'est déroulée un peu à l'image de celle de Clermont, à part qu'on a quand même fait quelque chose de nouveau également. J'avais obtenu l'accord d'une part de Fiction, de Galaxy et de l'horizon du fantastique. On a fait un concours de nouvelles. Et c'est ce qui avait été établi. La nouvelle classée première serait publiée dans Fiction, la deuxième dans Galaxy et la troisième dans Horizon du Fantastique. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Et la remise des prix, à la fois du prix de la science-fiction française et les prix en question, ont donc été remis à Angoulême. Et la personne qui a, je dirais, à la limite, remis les prix, c'était la compagne d'Igor Bogdanov, qui avait d'ailleurs participé au concours de nouvelles. De nouveau, je recherche le nom de sa compagne de l'époque.
La charmante Geneviève Gratt.
Voilà, absolument. Merci.
Qui a joué le rôle de la jeune fille dans tous les
gendarmes.
Tous les gendarmes à Saint-Tropez et ailleurs.
Mais qui avait auparavant...
C'est une grande figure du cinéma français. Ouais.
Non, mais elle a tourné énormément en Italie, et notamment des films de pirates, enfin des films de KPDP, etc. Enfin bon, voilà, je referme la parenthèse.
Et le Bogdanov en question n'avait pas de menton à l'époque.
Il avait une autre allure, enfin bon, voilà.
Il avait une barbe, c'est tout.
Donc ça s'est passé comme ça. Je crois que l'année suivante, je ne sais plus si ce n'était pas à Yverdon... Mais là, j'ai pas pu y aller. L'année d'après, je crois que c'était à Limoges et c'était Daniel. Pardon ?
Non. L'année d'après, c'était à Metz.
Ah, peut-être, oui. Et après Limoges, et c'est Daniel Fandanège qui l'avait organisé. Enfin, bon, voilà.
Sur le festival de Metz 77, c'était pas une convention de SF nationale. D'ailleurs, ça s'appelait Congrès national à Limoges.
Ah, peut-être, oui.
Alors,
je vais essayer d'organiser ce débat, sinon je m'en fous.
C'est bien.
Mais ton intervention n'est pas... Non, au contraire, PJ, ton intervention était parfaitement pertinente, parce que tu as rectifié, effectivement, une très légère inexactitude...
La mémoire, des fois, je veux dire... Hein.
Cela dit, effectivement, toi aussi, d'ailleurs, tu as rectifié un peu. Est-ce que quelqu'un dans la salle ou à la tribune pourrait nous dire... où nous parlait d'un petit mot des conventions qui ont suivi, c'est-à-dire entre 1974 et 80 déjà, dans l'archéologie des conventions françaises. Ah, pas donc toi, vas-y, Pascal.
C'était Limoges en 1977.
Oui, Limoges y était d'ailleurs. Alors,
laisse-le parler.
Oui, pardon.
Alors, on a un
non,
micro.
Non, j'ai une petite anecdote.
On a un micro baladeur.
Oui.
Attends le micro pour l'enregistrement. 75, c'était Angoulême, en 76, Metz, et en 77, Limoges.
Voilà, ça doit être ça, oui. Et Yverdon, ça doit être après, alors.
Il faut que tu t'avances, peut-être.
Mais viens là.
Oh, ok. Sors le micro.
Sors l'usine.
Viens là, tiens.
Voilà, c'est mieux, sors le micro. C'est mieux comme ça, l'enregistrement. Voilà.
Je couple avec 80. Enfin, je vais jusqu'à 80, mais en deux mots, chaque convention. Limoges 77, organisé par Daniel Fondanèche. Il y avait plein de gens à l'époque.
Oui, ben j'y étais aussi.
Bien sûr, Frémion, Guamard, Marianne Lecomte.
Pierre Versins.
Curval.
Versins.
Versus.
Ah oui, oui, et puis là, je vais donner une anecdote.
Il était à la Boulogne.
Ok, avec l'anecdote. Et bon, c'était ma première, je découvrais, j'étais etc. 78, Yverdon, organisé par Pierre Versins. Grande rigolade.
Christine.
Des tas de choses sérieuses aussi. 79, c'était Toulouse. Alors là, par contre, j'habitais pas à Toulouse à l'époque, c'est Noé Gaillard qui l'a organisé.
Ouais.
Mais il y a eu très peu de gens, si je me souviens bien, et ils ont eu beaucoup de mal à trouver la clé de la salle.
C'était les pompiers.
Et en 79, c'est la première convention où, malheureusement, le prix de l'imaginaire n'a pas été décerné, sans doute parce que l'organisation était peut-être un peu bon. Enfin,
ils ont remis le prix violet à la
place. Voilà, il y a eu un prix violet qui a été remis à Mouvance. Ouais. Raymond ne le dit pas parce qu'il est modeste. Et 80, c'était Rambouillet, organisé par le SFAN.
Premier Rambouillet.
Le club donc de fans de SF qui était à Rambouillet. Autour des Milberg et des frères Marché aussi, qui faisaient beaucoup de boulot. Il y a d'ailleurs la photo des organisateurs sur un des Progress Report, là-bas, sur un photo.
Personne ne nous a revu.
Depuis 83, non, mais ils ont quand même fait deux.
Oui, alors j'ai deux, trois petites choses à rajouter très rapidement.
Tu sais que tu as parlé 10 minutes, il y a 40 conventions, ça fait 400 minutes.
On va y arriver. On finira lundi ou mardi. Oui, juste, la première convention, il y avait quand même un invité étranger qui était John Brunner. Et je me souviens qu'il m'a... D'abord, il en était très satisfait. Et il m'avait dit... ce que j'espère pour toi, c'est qu'effectivement, ça ne soit pas quelque chose d'unique. Et effectivement, ben, on est là aujourd'hui. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'aurais jamais imaginé me trouver à la 40e...
40 ans après.
John Brunner a fait les sacs, première convention.
Oui. Mais bon, enfin... Alors, deuxième chose, c'était une petite anecdote à propos de Limoges, où j'ai dit qu'il y avait notamment Versins, et comme tu as dit, Guamard. À l'époque, donc, le Grand Prix de la science-fiction française, soit... Si on ne pouvait pas se réunir, on votait par correspondance, enfin en plusieurs tours. Et dans le cas de Limoges, on avait décidé de faire notre réunion, je dirais donc à Limoges, pour délibérer, etc. Et on s'est réunis. Et donc Jacques Guamard et Versins, qui faisaient partie du jury, je ne sais pas ce qui s'est passé, ils ne nous ont pas trouvés. Et donc, nous, on a été obligés de délibérer, donc je dirais le palmarès a été diffusé, et Guamard et Versins avaient fait un espèce de contre-prix de leur côté. Voilà, mais c'est resté, je dirais, lettre morte, mais c'était une petite anecdote en passant. Simplement, maintenant, pour finir de préciser au niveau du prix de la science-fiction française, c'est que jusque-là, les conventions ne se passaient pas au mois d'août. Elles se passaient, je dirais, autour du mois de mars-avril. Et étant donné que le prix de la science-fiction française concernait l'année précédente, on ne pouvait pas décerner le prix beaucoup trop tard. C'est la raison pour laquelle, à partir donc en gros des années 80, entre-temps, il y a eu quelques prix qui ont été remis à Clermont, parce que j'organisais encore d'autres festivals, mais qui étaient plus cinéma. Donc à partir de 80, où les conventions se sont déplacées plus tard, bah, globalement, comme le prix de la science-fiction française n'était plus décerné dans les conventions, elles ont créé ce qui est devenu le prix Rony. Et dernière précision, mais très rapide. En 1988, quand j'ai organisé un gros festival à Clermont, c'est à partir de là où le prix Apollo a disparu et où le prix de la science-fiction française s'est ouvert également aux ouvrages étrangers et où le prix est devenu le prix de l'imaginaire. Mais bon, ça c'est une autre histoire, je ne vais pas vous la raconter ici. Et je laisse la parole aux autres personnes de cette table.
Tu n'as plus de précision.
Non, c'est bon.
Parfait. Qui veut dire un mot sur ce que vient de nous dire Jean-Pierre ou sur des événements qui se sont produits dans les mêmes circonstances ou dans des circonstances différentes, à la même époque ou à une autre époque, dans le même lieu ou ailleurs? Et demain? Non, c'est autre chose.
Alors,
allez, vas-y, dis un mot sur Bordeaux. Donne-lui le micro, parce que maintenant, on en a un.
Bordeaux, j'ai toujours pensé que c'était Francis Valéry qui l'organisait. Et lui, il a toujours pensé que c'était moi qui l'organisais.
Donc, c'est personne.
C'est mal barré. Mais j'ai retrouvé quand même un épais dossier de correspondance adressé à moi, auquel je répondais. Donc, quand même, j'avais mis le doigt dans l'engrenage. Ça s'est passé dans des circonstances assez folkloriques. En fait, le vrai boulot a été fait par un gars qui était libraire, qui a fait faillite depuis, le pauvre, faillite, divorce et dépression. C'est ce qui vous attend si vous organisez une convention.
Faillite, divorce et dépression.
Mais ça ne m'étonnerait pas, de toute façon.
J'ai une petite chose à préciser encore. Non, parce que là, il faut que je le dise.
C'était Philippe Maillard. Bref, il avait une librairie de SF qui devait faire de l'argent dans une petite rue de Bordeaux. Et il avait trouvé une salle où on pouvait se réunir. Il y avait un bar à côté, puis il y avait un restaurant de couscous où qui avait une cave dans laquelle on pouvait se réunir. Il faut dire qu'on devait être 20 ou 30, un peu plus peut-être. Et donc, c'est lui qui a fait le gros du boulot matériel. Malheureusement, le premier soir, il s'est engueulé comme du poisson pourri avec le patron du restaurant de couscous qui nous hébergeait.
Vous avez raison.
Jusqu'à échanger des insultes racistes, ce qui fait qu'on a été foutu dehors.
Et on a été dans le
croquis. Heureusement, c'était la fin de l'été. C'est rare, mais il ne pleuvait pas à Bordeaux. Et ça s'est tenu grosso modo dans la rue, au bar, dans une petite salle où on a pu se réunir. Mais il y a plein de beau monde. Il y avait Dorémieux qui nous casser le programme en organisant des réunions de rédaction de fiction pendant les conférences, c'était parti à voter les gens. et puis, il devait même y avoir Emmanuel Joanne, parce que j'ai retrouvé une lettre de Joanne m'écrivant pour dire qu'il voulait s'inscrire et venir à la convention, qui était jamais venu, que ça intéressait, etc. Voilà.
Alors, à l'étonnement général, Jean-Pierre Fontana a encore une précision à apporter.
Pardon. Oui, parce qu'il faut quand même rendre à Grenoble ce qui appartient à Grenoble. En 1974, donc, effectivement, j'ai organisé la première, appelons-la quand même, convention française. Mais Grenoble, quelques mois plus tard, a organisé la convention européenne. Voilà, et je tenais à le dire, parce que c'est vrai que pendant un certain temps, entre Grenoble et Clermont, il s'est quand même passé pas mal de choses. Et je veux dire, je tiens quand même à le signaler, dans la mesure où on a un Grenoblois autour de cette table, et où c'est quand même une ville où il se passe pas mal de choses. Hein. Voilà.
Alors, Pascal,
ajoute.
Ben, il était à Angoulême aussi. Hein. Et je me souviens d'ailleurs qu'il tapait tout le monde parce qu'il avait quoi, 14-15 ans.
Mais attends, lequel des deux? Parce qu'il vient de citer deux personnes.
Alors, je parle de Roland Wagner.
Voilà.
Et c'est marrant parce que l'an dernier, quand on lui a remis le prix de l'imaginaire, donc je lui ai rappelé un petit peu l'anecdote. Hein. Et alors, tout à coup, et c'est malheureux, je voulais amener la photo, j'ai complètement oublié. Et j'ai un gars qui a pris la photo. Donc, je tenais le diplôme pour lui remettre en expliquant ça. Et il s'est mis pratiquement à genoux pour montrer qu'il était... À l'époque, il était tout petit. Oui. Bah, c'était l'an dernier.
Non, mais l'an dernier.
Non, c'était mort.
Oui, mais il est mort quand?
Début août.
Oui, non, mais Saint-Malo, c'est au mois de, c'est en avril.
Saint-Malo, pardon.
Oui, oui. Saint-Malo. Non, j'ai bien dit Saint-Malo, hein, à étonnant ouais. Voyageur. Hein.
Raymond Ménési a non pas une précision, mais une petite synthèse à présenter.
Une courte, très bonne.
Une courte synthèse. Une courte synthèse.
Prends-le moi, celui-là.
Alors, par la suite, mais avant de raconter très rapidement les conventions suivantes jusqu'à rejoindre le panel, je précise que sur Wikipédia, vous avez un site qui s'appelle Convention nationale française de science-fiction, qui explique ce qu'est la convention et qui donne toutes les listes jusqu'à la mienne. Donc, vous aurez tous les renseignements là-dessus. Donc, on était en 81. En 82, nous sommes allés à Quetigny, dans la banlieue de Dijon.
Oui. Ah bah là-bas.
Il y a pas mal d'anecdotes. Enfin, pas non, si on rentre dans les anecdotes, on est là demain encore. Je gicle. Oui, comme l'avait dit le regretté Chénis à l'époque qui avait fait un scandale, toujours à Quetigny, on a fait plein de choses. C'était les années Frémion aussi, qui étaient souvent les conventions qui prenaient la parole et ensuite il n'y avait plus moyen d'aller enlever.
Ah,
ensuite,
tiens.
Oui, il y en a comme ça.
Ouais.
Ensuite, on est retourné à Rambouillet une année dans la cour d'une école à l'initiative des frères Marché et non du SFAL. Puis nous avons fait un petit tour où est-ce qu'on est allé ensuite en 84. Ah oui, c'était l'Inénara Convention de Nancy, qui fut un magnifique ratage de Michel Ruff, c'est ça, qui avait essayé de bien faire les choses, mais qui avait eu les yeux plus gros que le ventre.
Surtout pas.
Surtout à Nancy, c'était difficile. Pourtant, le lieu était bien. Et c'est à la suite de Nancy, d'ailleurs, que ce ratage a entraîné les fans à se réunir Donc de Bolge n'était pas l'année suivante à Angers, et à pondre la charte des conventions nationales que j'ai, non pas rédigée, mais tapée, et que je gère depuis lors, vous rendez compte, à la demande de Frémur à l'époque. Puis nous sommes allés, que j'en oublie pas, à 80, ensuite à Lille, il me semble, à Angers, à Lille, où j'ai pas pu y aller, c'était en pleine rentrée scolaire, contrairement à la demande de la charte qui venait de naître, justement. Et on a fait un petit tour en 86, aidez-moi, j'ai pas la liste
86,
ici.
86, Lille, 87,
à Lille. Voilà, c'est ça. Où tu disais, 87
Montpellier.
Ah oui, Montpellier, bien sûr, c'était comme école, elle est là. Puis, après 87, nous sommes allés, il me semble, à la Valette du Var.
88, Paris.
Ah ouais, là, c'est à Paris, là aussi, magnifique ratage. Où la convention d'Audemars, bien qu'il y ait eu un beau travail de fait, c'était à la mutualité, a été en partie sauvée par les éditions de la Scientologie, je ne sais plus comment ça s'appelait, qui a apporté de l'argent, c'est déjà pas mal. Et donc, voilà, il faut dire qu'à Paris, c'est difficile de faire une convention. D'ailleurs, il n'y en a plus jamais eu depuis lors.
À Saint-Denis, c'est presque ça.
Non, non, à Paris, je veux dire.
Oui, mais enfin, c'est voisin.
Ah, on connaît. Oui. Oh. Et en 90, c'était chez moi, donc une réussite complète. Oh, aussi. Je sautais à la Valette du Var. Oui, la Valette du Var. Puis, nous sommes allés chez Mickey Papos à Montfort-sur-Argens. Fraîche fête aussi, en même temps que la 380e convention de la saucisse, c'était juste à côté. Et puis elle, elle a eu du succès. Puis nous sommes montés au nord à Redu en 92, à l'initiative de Serge Delsem, notre regretté copain. Parce que là aussi, il y a pas mal de gens qui sont partis voir ailleurs depuis. Hein. Et Hans Milders, qui est peut-être
ben, je sais pas, encore couché. Elle est encore au lit, je pense.
Et, et là aussi, c'était assez folklorique. Redu est un petit village du livre, comme Fontenoy-la-Jouffe. Et c'était vraiment, c'était quelque chose. On était dans une salle paroissiale, dont de Jupiler. Et c'est là que...
Le roi des dieux, ben, presque.
Démarré, Jérôme Beau, à Dudem, je ne le vois plus, il a démarré cette année-là.
Il est là-bas au bar.
Je sais, il était arrivé en short là-bas, c'était en Belgique, la Belgique. Hein. Et d'autres, pas mal, ont démarré. Et c'était une grande époque. Avec, il a été reçu par Roland Wagner et Wendy Petou, je me souviens. Donc il était vacciné après. Il a fait un tour épouvantable, ça arrive parfois. Je gaze à toute vitesse. Ensuite, nous sommes allés à l'initiative d'Alain Grousset et de Gilbert Cognette, nous sommes allés à Orléans, la source plus exactement. Et là, c'était une des rares conventions avec une thématique, c'était sur la femme dans la SF. Puis, un tour à Sophia Antipolis. Ce qui est marrant, il y avait un congrès de la police du Varoise en même temps. Moi, je marie à Sophia Antipolis.
Antipolis, c'est pas mal.
Ouais. C'était l'époque où il y avait la fameuse revue Planète à vendre, c'est celle qui coupait les coins, comme ça, de William Wechter. Il n'a pas fait grand-chose, mais il était là, il dormait dans une auto. C'était une époque comme ça. Par contre, nous, on était bien logés, hein, quand même, dans une espèce de...
Le camp universitaire.
De... Voilà. Mais le problème, c'est qu'il y en a... Il y en avait qui rentraient en retard et puis qui vomissaient dans le couloir, enfin des trucs, des conventions. Ben,
c'est interdit.
Difficile du maître. Oui, c'est absolument interdit. Donc ça réveillait, bon, ça s'amusait bien. Quoi. Et il y a une photo là-bas, une magnifique photo, je ne sais pas si elle a été mise du dernier jour, dimanche après-midi.
On va la mettre.
Avec plein de gens, dont Michel Tondelier, qu'on ne voit plus depuis. Et puis ensuite, Yverdon, je vous en avais parlé, oui, Yverdon, 95, la deuxième d'Yverdon. À l'initiative de Roger Gaillard, qui lui, nous a quittés, c'était déjà la maison d'ailleurs, qui s'occupait de ça. Et on m'a bousillé ma voiture là-bas. Et puis ensuite, trois conventions à Nancy, à l'initiative de. Alors, je ne sais pas comment on doit dire. Moi, je dirais Stéphane Nico, mais pas elle.
Ah ben, c'était Stéphane à l'époque.
Ah ben, elle a changé sur le site, je suis obligé de dire elle, ou alors il aime.
Non, non, mais moi, j'ai rechangé sur le site.
Moi aussi, mais elle a rechangé.
Tu sais, à cette époque-là, c'est
Stéphane.
C'est Stéphane.
Non, c'était
Stéphanie.
Mais l'époque, c'était Stéphanie. Mon père, c'était Alain Jardy, Daniel Corral. Et on est allé 3 ans de suite à Nancy, qui avait le grappin sur la convention, en faisant les galaxiales, bien sûr. Bon, c'était mieux que, les premiers, que la première, en tout cas. Faut que ça, c'est pas difficile d'être mieux que celle de 84. Il suffit de rien faire. Et puis, on a fait... Est-ce que je rejoins quelqu'un, toujours pas ?
Si, tu vas rejoindre bientôt Claude
Cabot. On y arrive à la salle. En 99, alors là, on a redémarré ce qu'on appelle les vraies grandes, belles conventions. Je suppose, ça c'est un avis personnel. Je vous rappelle que pendant ce temps-là, je commençais déjà à piocher les candidats ou à les pêcher et à répandre la charte, à veiller dessus. Et on en discutait un peu plus, mais depuis qu'elle est au poids, on a eu peu d'occasion de la redresser. Elle est toujours, c'est toujours moi qui gère ça et qui reçoit les candidatures. Oui, je suis quand même obligé de dire qu'il y a eu 1984, ensuite c'était devenu Infini, association qui végète sans doute, mais qui a eu le mérite de pondre ça, l'espèce de la responsabilité du suivi des conventions dont je suis chargé depuis 25 ans. Et ça a permis d'avoir des candidatures tout le temps. Alors nous rejoignons maintenant l'ODEV chez Claude Ecken.
À qui je passe la parole en lui disant dis-nous tout brièvement.
Oui, ma première convention c'était 1981. Quoi que dise Pascal, Thomas, c'est vrai que Dorémieux faisait peut-être le rédacteur-chef de fiction, mais il venait justement de reprendre la rédaction. Et pour moi, ça a quand même été une révélation et quelque chose d'un moment important, puisque nous étions tous ensemble à connaître d'autres auteurs ou futurs auteurs, et puis à pouvoir entrer, mettre un pas dans la revue fiction, pour ceux qui n'y étaient pas encore. Donc ça, c'était très bien. Par la suite, on se dit que les conventions, c'est bien, on trouve du monde, des sujets d'intérêt que l'on partage, et il faudrait un jour restituer aussi ce qu'on nous a donné, c'est-à-dire organiser sa propre convention. Je me méfie un peu des organisations, parce que moi, j'étais déjà le créateur du Festival de bande dessinée d'Aix-en-Provence, en 1981, manifestation qui était annuelle, et je savais ce que ça supposait que d'organiser quelque chose de ce genre. À l'époque, je voulais organiser mon propre festival parce que j'en avais marre d'aller charger de bouquins dans les autres salons et de revenir encore plus chargé avec des bouquins dédicacés. Je me suis dit, si je peux venir, je vais avoir ce que j'ai pas vendu. En fait, on ne voit absolument rien, on est toujours dans les coulisses. Et je ne voulais pas faire de convention au départ, mais il se trouve qu'à Nancy, par un hasard assez répété, beaucoup de gens m'ont dit « Et alors, quand est-ce que tu organises ta convention ?» Quand on vous le dise une fois, ça va, puis deux fois, trois fois, quatre fois, ça commence à dire « Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à vouloir que j'organise la convention ?» Et je faisais route avec Guillaume Thiberge, nous conduisions un tour de rôle sa voiture pour rentrer, et on discutait évidemment dans la voiture en disant « De toute façon, moi, je ne peux pas organiser la convention à Béziers, il n'y a pas moyen, le palais des congrès est hors de prix, de toute façon, je n'ai pas de place pour un truc comme ça. » Et le fait simplement d'en discuter, j'animais des ateliers d'écriture à l'ODEV avec une médiathèque qui est formidable. Et je me dis, peut-être que l'ODEV, ça pourrait aller. Et voilà, le fait d'en discuter, ça y est, c'était parti. Et après, j'ai demandé à Raymond la charte. Je me suis arrangé avec la municipalité qui avait dit, on ne le fera qu'une fois, mais on le fera bien. Déjà, il nous donnait 50 000 francs. Et il mettait à notre disposition une grande salle municipal, qui avait absolument tout ce dont on avait besoin, sachant que pour la logistique, les photocopies, le timbrage et tout était expédié depuis la médiathèque. Résultat, on limitait les frais et l'argent que l'on avait pouvait vraiment servir à inviter les gens. On s'était dit aussi que pour qu'une convention soit réussie, il faut d'abord faire boire les gens. Donc quand ils sont un petit peu ronds, ils sont contents, tout va bien. C'est pour ça que nous avions mis du vin à volonté à chaque repas et que nous avons multiplié les vernissages avec les alcools traditionnels et puis surtout avec un crémant d'Alsace qui était très bon, mais c'est ma marraine qui fait le crémant. Donc je m'étais arrangé avec elle pour qu'elle nous fasse des prix et on a fait venir donc plusieurs caisses et on a eu l'inauguration donc avec un crémant. L'inauguration elle-même, le vernissage de toutes les expositions, le vernissage des expositions qui avaient lieu à la médiathèque, un vernissage hommage, enfin bon, on en a multiplié tout au long de la convention, donc là déjà c'était réussi. Ceci dit aussi, une convention c'est une auberge espagnole, c'est-à-dire qu'il ne faut pas essayer de trop cadrer, diriger, de laisser les gens s'exprimer et amener leurs propres idées. Là, je crois que j'ai simplement eu de la chance. On a eu Duniac qui a voulu célébrer la science-fiction et qui nous a fait un striptease le soir de la vente aux enchères.
En rose. En rose. En tutu rose,
voilà, c'était du papier toilette avec des petits points brillants. Il avait inscrit sur son petit torse musclé I love SF dans un petit cœur. Et donc je me souviens que les gens voulaient faire monter au décembre une sorte de jarretière en misant de l'argent. Il y a aussi eu la naissance de la table. C'était donc Guillaume Thiberge qui voulait faire entendre une cassette que l'on mettait en vente aux enchères et on n'avait pas du tout de moyen de le retransmettre au micro, on n'avait pas de lecteur de cassette suffisamment puissant. Et donc, pendant qu'il essayait de faire écouter ça, tout le monde avait dit, 50 francs pour la barbe, 100 francs pour qu'il se rase la barbe. Et il n'arrivait pas à les faire taire, il a donné quelques coups de marteau. Vous voyez Guillaume Thibert, j'ai quand même costaud, des coups de marteau intempestifs. Charpentier. Et voilà, c'était le premier trou dans la table. Je ne l'ai même pas vu pendant ce temps. J'étais avec l'adjoint de la culture, qui se méfiait un petit peu de la science-fiction en disant, bon, qu'est-ce que ça va être les...
C'est là qu'il a dit que c'était sérieux. Il a dit que c'était quelque chose de sérieux.
Voilà, et j'ai dit, vous avez vu, c'est sérieux, c'est un bon enfant, il ne se passe jamais rien, on ne casse rien, tout va bien. Et là, on entend une grande clameur là-haut. Et il a dit, bon, parfois ils sont un peu bruyants, mais ils rigolent bien, voilà, et il est parti. Et ensuite, j'ai appris ce qui s'était passé. Voilà.
Merci Claude.
Merci Claude. Alors, on continue dans la foulée, hein, dans la chronologie. 99, le Delitz. Jérôme Beau est évidemment parti boire un pot.
Oui, c'est bloqué. Ensuite, on arrive à la fin du XXe siècle. Bah oui, on enchaîne.
Alain Huet, il se marie, c'est ça? Il se marie en Bretagne?
Pas lui-même.
Ah, c'est pas bien. Enfin, toujours est-il qu'il n'est pas là, donc il ne va pas pouvoir nous raconter. C'était à Saint-Denis en juillet. Et je me souviens qu'il avait organisé une projection de 2001 Odyssée de l'espace dans un cinéma dans le centre-ville. C'était merveilleux, 2001 Odyssée de l'espace, dans une salle de 800 places. On était trois. Ça coupe l'ambiance. Hein. Et il y avait une magnifique conférence du professeur Van Toplitz qui est où il est passé.
Il n'est pas là non plus.
Bon, tant pis pour lui. Mais donne une anecdote, mon grand. Donnez le micro à monsieur Dardini. C'est une auberge de jeunesse, je crois, un truc comme ça.
L'auberge municipale,
voilà, c'était ça.
Et on prenait le bus, ou éventuellement pour aller
On traversait toute la ville.
Et on revenait à pied, enfin, moi j'avais constaté ça, le matin de bonne heure, on prenait le bus, et dans le bus, il n'y avait que des gens qui étaient des Arabes.
Ou des Noirs.
Non, tu vas voir, la distinction.
L'après-midi, on prenait le bus, il n'y avait que des gens, français. ça devait être aux alentours du 14 juillet.
Oui, il y avait le 14 juillet dans la convention.
La nuit, on est revenu à pied. Donc c'était minuit, et là, on n'a vu que des Noirs. il y a des créneaux, il y a des gens qui n'ont pas le droit de circuler. C'est pour les gens. Là, t'as carte, là, c'est de 8h à
19h. C'était sûrement ça. Après cela, c'est Alain, le regretté Alain Lubissy qui a organisé le premier TILF, oui. Il y en a donc eu trois, comme vous savez, avec personne. Je ne sais pas si vous vous souvenez. L'avantage de TILF, c'était qu'on pouvait loger à 25 mètres du lieu de la convention. Jean-Luc, as-tu des choses à ajouter là-dessus? Non. Au château.
On était au château.
Ouais.
Les gens qui étaient percés chez leur linge à l'extérieur, c'était quand même.
Oui. Non, il le rinçait à le distiller, comme ça. Flémal, pareil, c'était en Belgique, entre Hans Mulder qui est dans sa piscine et Sarah Doe qui est toujours.
Convention perdue, ça s'appelait.
Ça s'appelait à la convention perdue, la pauvre Sarah.
Tu y étais.
Oui. Ah, bah, écoute, c'est bien, je te fais.
Il dit pleuvait tout le temps.
Voilà, c'est la seule à laquelle j'ai pas assisté depuis 1999.
Cette convention suivait l'incroyable canicule qu'on a eu en 2003, et quand on est arrivé à Flémal, il a commencé à faire froid et à pleuvoir tout le temps. C'était un temps épouvantable, il devait y avoir 25 degrés de différence carrément avec ce qu'on avait connu la semaine d'avant. On était tous absolument sidérés et frigorifiés.
Ah oui, c'était mouillé.
Ah oui, il pleuvait tout le temps.
Ça, c'était mouillé. Jérôme Beau est de nouveau pas là pour parler de Entraigues sur la Sorgue numéro 1.
En 2004.
Ou Lille sur la Sorgue numéro 2, c'est un peu compliqué. 2004, il y avait Robert Sheckley.
Il y avait Robert Sheckley
que je suis excessivement fier de la transporter dans ma voiture.
Il y avait Versailles aussi.
Qui a reçu le Cyrano. Là.
Il était très vieux. Hein. C'était la première convention, ben voilà, d'un camarade. Attends, pas tout, excusez-moi, pas tous à la fois parce qu'on n'arrivera pas. Vas-y, Laurent.
C'était dans la première convention,
sur qui je me rencontre Sheckley. Ah oui, c'était
bien. C'était la première fois que j'ai rencontré Roland aussi.
Roland Sheckley.
On a pris soin de lui remettre le Cyrano à l'époque et on a bien fait parce qu'il n'a pas passé l'année suivante.
Oui, il est mort l'année d'après. Ouais. Pascal, tu voulais.
Vous avez fait une conférence à Terbus et
Une conférence, pardon.
Une interview publique, si tu veux. Question-réponse en public avec Chéquet, quoi. Et je me rappelle que c'est moi qui posais les questions. Et l'organisateur m'avait prévenu la veille que je devais faire ça. Donc le matin, je suis allé dans un bistrot dans le centre de l'île sur la Sorgue pour vite, vite dire quelques nouvelles de Chéquet. Parce que je l'avais lu, mais c'était vieux.
Ah oh bah oui.
C'est comme ça qu'on fait toujours.
C'est hein, un genre de... Ah, oui, absolument. Cette...
L'île Entraigue, dans ça, c'était l'île Entraigue, et Tiresne. Ouais. Pierre Gévard, Bélin, numéro 1.
Pierre Gévard, Bélin, 2005.
Bélin, ouais, 2005. Bélin. 2006.
2006. Oui, c'est une histoire qui remonte à Flémal, d'ailleurs. Puisqu'à Flémal, Raymond devait être dans le coup, sans doute. À Flémal, effectivement, où j'étais allé parce que j'étais pas à celle de 2001. Et à celle de 2001, j'avais eu le prêt infini, puis j'avais appris qu'on avait oublié de me prévenir. Donc, je me suis dit, je vais aller voir comment ça se passe une convention. Je vais appeler mal. J'ai vu comment ça se passait.
Ça se passe pas comme ça d'habitude.
Donc, j'ai pas pu comparer avec le reste.
Ah, la première où on t'a vu, c'était en 2002 à Tilf, déjà. 2002 à Tilf, tu étais.
Non, j'étais pas à Tilf en 2002.
Ah non, c'était Flémal.
Non, c'était Flémal, oui. Je sais qu'il y avait de la bière bleue. Je sais qu'il y avait des types avec
ça, c'est ça.
Bleu aussi.
Ah oui.
Oui, c'est celle-là. Et à un moment, quelqu'un a dit, bon, mais il n'y a personne pour 2006. Et je ne sais pas, j'ai eu une crampe dans l'épaule gauche, mon bras s'est levé. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé avec la convention organisée pour 2006.
La candidature, tu l'as déposée l'année suivante, en 2006.
Oui, je l'ai déposée, mais là, c'était la pré-candidature, voilà, hein, oui. Donc l'année suivante, je l'ai déposé, ou je l'ai fait déposer parce que j'ai pas pu y aller, moi. Voilà. Et à partir de là, eh bien, on s'est mis à organiser ça. Et une année avant, je me suis dit, ça serait bien de ressortir un fanzine à l'ancienne. Bon, sauf que j'ai fait des photocopies et pas de la Gazette Nair. Et c'est comme ça que j'ai créé Géante Rouge, qui devait normalement avoir 4 numéros et s'arrêter au bout de 4 numéros avec la convention de Bélin. Bélin, c'est une convention qui, pour moi, a été la première de celles que j'organisais, d'abord. Une convention qui m'a donné l'occasion à la fois de rencontrer plein de monde et de m'apercevoir que quand on fait une convention, à part serrer la main des gens quand ils arrivent ou les embrasser selon le degré d'intimité qu'on entretient avec eux, on n'a pas le temps d'écouter grand-chose, ni d'aller assister à grand-chose. On passe son temps à régler des problèmes domestiques et autres, mais finalement c'est aussi très bien, c'est tellement bien que quand les choses se sont terminées, alors qu'est-ce qu'on avait eu comme moment marquant, je me souviens, alors c'est bizarre, il n'avait plus le premier jour. Hein, il avait plu et on mangeait normalement dans des tentes de l'armée qu'on avait mises dehors et ça faisait des poches d'eau et de temps en temps quelqu'un appuyait et les poches d'eau tombaient entre les convives. Donc c'était très chouette et le deuxième jour on a mangé dans une salle quoi. Un peu trop petite, alors on prenait son tour, voilà.
On a eu le train de...
C'était à queue,
en général. Oui.
Il y avait le fameux train où ils ont, qui a servi en
partie. Oui, c'est ça. On est allé visiter un site minier et effectivement, on s'est retrouvé sur le quai de la Compagnie des Glaces.
Voilà.
Le feuilleton qui n'a pas eu de suite, d'ailleurs.
Heureusement. Il y avait la chaussée d'Arenberg, célèbre.
Oui, absolument.
Il y a quelques centaines de mois.
Oui. Tout à fait. Et puis on est monté sur le chevalement.
C'est l'année d'après.
Rien à voir
avec. Voilà. C'est à Bélin 2, ça, je crois.
Non, Bélin 2, c'est autre chose. Mais j'en parlerai tout à l'heure.
Ah bon?
Moi, je crois que tu faisais une synthèse. Non.
Et j'ai eu le prix Cyrano.
Et tu as eu le prix Cyrano, oui, on s'était rencontrés à Flémal.
Voilà.
Où j'avais eu l'immense joie de te transporter en voiture. Voilà. Et j'avais même réussi à parler un peu. Bon, ce
qui est quand même remarquable.
Ça ne va pas être le cas aujourd'hui. Hein, je pense.
Voilà.
Je vais laisser parler.
Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'on avait eu d'autre à Bélin, pardon?
Les gens de
On avait effectivement les auteurs ukrainiens.
Ouais. Oui,
et puis les, l'auteur double, en fait.
Il y en avait même des qui n'avaient pas pu venir.
Non, ça, c'est en 2009.
Ah,
voilà. Donc, on avait eu les auteurs ukrainiens, on avait eu des dessinateurs de bande dessinée qui étaient venus, mais alors là, ça, bon, pour moi, c'est pas un succès, ça, parce qu'ils ont pas, ils sont pas entrés dans le truc. Ils étaient venus plutôt en croyant qu'ils allaient participer à un salon du livre. Ils sont venus pour faire des dédicaces, alors que j'avais espéré qu'il y ait des échanges. Il faut dire aussi que dans les conventions, quelquefois, on prépare des choses, on espère que ça marche, et puis quelquefois, la mayonnaise ne prend pas. Hein,
bah, c'est, par exemple, c'est, là, maintenant.
Tout voilà. voilà, mais si, ça va. Ça monte. Qu'est-ce qu'on avait vu? C'était aussi le premier Pépin, oui, cette année-là, le prix Pépin. Alors, le prix Pépin...
Sois bref.
Oui, je vais être bref. C'est mon maître.
Non, mais ça, il faut que je remonte. Attends, il faut que je remonte. Il faut que je remonte à ma première rencontre avec
Jérôme Vincent et Roland Wagner en même temps. Ça devait être à la fin des années 90, quand Jérôme avait organisé un concours de nouvelles qui s'appelait 85e Dimension. Bon, j'avais voulu participer et comme j'avais déjà publié, je pouvais pas. Alors il m'a dit, c'est pas grave, tu viens dans le jury. Donc j'étais dans le jury, je me suis retrouvé avec un tas de nouvelles à peu près comme ça, 75 cm de nouvelles à lire. Et quand je suis sorti de là, complètement ravagé, je me suis dit, il faudrait faire plus court un jour. Et puis plus tard, Alain Le Bussy m'a convaincu d'entrer dans le jury du prix Infini. Et là, je me suis retrouvé, bon, il n'y en avait plus que 45 cm, mais c'était encore pas mal. Et là, je me suis dit, en sortant de cette lecture, je vais lancer un prix où les nouvelles auront 300 signes, titre compris, maximum. J'étais certain que ce serait une blague, que 3 ou 4 personnes l'enverraient. Et puis, ben, cette année, on en a reçu...
45 cm.
Cette année, on en a reçu 557 ou quelque chose comme ça.
C'est là
ce qui
qu'on
fait
voit.
Qu'on est obligé de faire des sous-jurys, c'est terrible.
C'est là qu'on voit la puissance de la science-fiction. Parce qu'au fond, c'était une prémonition de Twitter.
Absolument. On a doublé un peu.
Oui, bon, voilà.
Voilà. Bon, et puis, je pense que sur Bélin, à part le film qu'on a projeté, heureusement qu'il était muet parce que je n'ai pas retrouvé les commandes du son, et donc on n'a pas eu le son. Vous savez, le film avec des dinosaures de 1925, voilà.
Et puis une pièce de théâtre.
Et à la fin, il y a eu une pièce de théâtre, effectivement, il y a eu une pièce de théâtre montée par Émilie. Gévard, qui s'appelle Émilie Savoie maintenant. Et quand ça s'est terminé, j'étais crevé et je me suis dit, quand est-ce qu'on remet ça?
Voilà. Tu as bien fait.
On racontera la suite tout à l'heure.
Alors, on
est en 2007.
Ah, c'est pas vrai, déjà, 2007. Oui. 2007. Alors, à cette convention, cette convention de TIF, on avait donc, comme d'habitude, voté pour la convention ultra suivante. Et à la surprise générale, quelqu'un a dit « Oh, ben, Jean-Louis Trudel est là, il va pouvoir nous donner des conseils, mais pourquoi on ne l'organiserait pas au Québec ?»
C'est lui qui l'a proposé.
C'est lui-même, carrément. Donc, il a proposé. Et à la surprise générale, tout le monde a voté pour Québec.
Non, il y a eu une voix de majorité.
Ah non, plus que ça. Ah oui, plus que ça, plus que ça.
Il y a eu trois voix de majorité.
Une majorité. Bon.
Non, j'ai dû compter les votes en deux fois, mais la différence était en sa faveur, honnêtement.
Oui.
Mais oui, sans doute. Oui. Les francophones. Ah,
et pour appuyer son mouvement, Jean-Louis est très convaincant. Donc, il a développé le fait que dans le cadre d'une convention nationale francophone, vu qu'il y avait autant d'avoir été en tant Belgique qu'en France, ça pouvait se faire dans d'autres pays francophones, comme Montréal. Et à partir de là, la machine Jean-Louis s'est mise en marche et il a hypnotisé une grande partie de la.
Attention, moi je lui ai demandé de l'appeler francophone, il a dit non, nationale française. Il avait même assisté.
Encore mieux.
Sinon, on était plus d'accord.
Qui était?
Moi.
Qui y était?
Un, deux. En Montréal?
Ouais.
Non, Montréal. Je rigole.
Un, Montréal. Deux, trois.
Ouais. Il y avait huit Français.
Tu y?
Il y avait huit Français.
Il n'était pas.
Il y avait Alain Allier, il y avait Georges qui était.
Il y a l'autre Georges, c'est tout.
Il y avait Alain Huette. Ouais. Qui représentait tout le monde.
Ouais. Il y avait Jean-Louis Trudel, mais lui, c'est normal.
Ouais. Il était sur place.
Il était sur place. Bon, voilà l'incident. Du coup,
il y avait Von Arburg aussi, sûrement.
Oui. Il y avait Von Arburg
oui,
aussi.
Oui, oui, bien sûr.
Du coup, Jérôme Beau, qui était contre, d'ailleurs, je me souviens à l'époque, Jérôme Beau a dit, on va faire une fausse convention. On va faire une réunion d'amis.
Pas fausse, une réunion amicale.
Une réunion amicale des amateurs de science-fiction, et qui s'est tenue entre eux. Donc, où il y a eu beaucoup plus de monde qu'avec
Malheureusement aussi, d'ailleurs.
Groupé.
C'était Alain Huet, il me semble, qui avait prévu à ce moment-là de se charger du. Et puis au dernier moment, tout le monde est parti parce que les bains voulaient partir de Bruxelles, ils voulaient partir d'endroit, ce qui fait qu'il n'y a jamais eu de voyage, chacun devait se débrouiller. Donc,
Et je me souviens, ce qui était marrant à l'époque, il y avait Bertrand Tessier qui était donc, qui n'est pas là cette année, c'est rare, hein, qui était à Tilf au moment du vote et qui a dit ah, enfin! Enfin, une convention où il est facile d'aller, tu montes dans l'avion, tu descends, t'es arrivé. Pas des trucs comme, je sais pas moi, qui
sont
des TILF,
Aubenas,
l'île sur la Sorgue, Aubenas. Je pense qu'il a dû y aller, lui aussi. Là.
Et dans le genre des conventions, c'est des conventions un peu difficiles d'accès, il y a eu ensuite Nyons.
Oui. Allez. C'est super facile. 2008.
Oui, pour Grenoble, oui.
Oui, et puis en plus, tu dormais dans la salle, donc tu surveillais aussi des bouquins. Oui, bah, Nyons, donc 2008. Alors, je vois, chacun a raconté ses petits souvenirs. D'ailleurs, moi, j'ai appris plein de choses. Et d'ailleurs, je remercie Jean-Pierre Fontena, parce que sans lui, on ne serait pas là.
Merci. Voilà. Ça serait peut-être fait quand même.
Ça y est, vous l'avez fait parler.
Oui, peut-être, mais en tout cas,
oui, voilà.
C'est toi qui as lancé tout ça.
C'est vrai.
Bon, Nyons, moi, j'ai des souvenirs lumineux de Nyons. Bon, évidemment. La chose la plus émouvante dont je me souviens, c'est Michel Jory. Voilà, c'était Michel Jory sous les arcades ensoleillées, enfin sous le soleil de Provence et de Drôme provençal. Le grand retour de Michel, c'était l'un des buts que je m'étais fixé. Et je suis content qu'on ait pu le faire. Voilà, c'était très émouvant. Je veux dire aussi que voir mon nom en face de Nyons, c'est un peu illégitime parce qu'il y avait une équipe formidable. Voilà. Et que l'équipe, c'est tout en réalité, et que des gens comme Anouk, comme Jean-Jacques et Mireille, comme Sybille Marchetto, comme tous ceux qui m'ont entouré, et qui étaient là dès le départ, et puis qui m'ont poussé aussi. Alors, mon expérience de la convention de Nyons, ça a commencé par d'abord un bonheur de découvrir une famille. Alors moi, j'ai découvert la convention, c'était en 2000, je crois. C'était à Lille-sur-la-Sorgue, c'est ça, non?
Oui.
Non. 2001, si, si. 2000, Lille-sur-la-Sorgue 1, oui, Jérôme Beau, oui, voilà, qui a organisé plein. Alors je me rappelle, j'y suis allé en voiture, c'était ma première convention, avec David Calvo dans la bagnole, on était passé par Marseille. Et l'une des anecdotes rigolotes, c'est que je cherchais André-François Rueau, et pour moi, André-François Rueau était un homme très enrobé, petit, les cheveux blancs et les yeux bleus. Et quand j'ai découvert le grand
Arthur Sereau,
j'étais totalement surpris. Je ne sais pas avec qui je le confondais, mais bon, enfin, passons.
Henri Cloche.
Oui, peut-être, je ne sais pas.
Parce que tu as dit c'est Henri Cloche.
Oui, ça devait être ça. Bon, j'avais cette image-là, et puis tout de suite, j'ai compris que c'était une ambiance très familiale et très, très intimiste en même temps. On partageait tout. J'ai des souvenirs lumineux aussi de 2005, de l'édition de 2005 à TILF. C'est là où j'ai commencé d'ailleurs, dans l'euphorie, je pense, à me faire coincer. Parce que les gens, voilà, mais aussi, ouais. Les gens me disaient, bah alors, la convention, tout ça. Et puis je me suis engagé un peu à la légère, à ma manière, à moi, c'est-à-dire qu'au départ, je m'engage sans trop réfléchir, et puis après, les choses deviennent plus concrètes. Mais c'était vraiment l'histoire d'un enthousiasme partagé et qui n'a cessé de croître depuis, d'ailleurs, y compris bien après Nyons encore. Voilà, moi j'ai fait ce que Claude a dit, en fait. J'ai rendu à la famille ce qu'elle m'avait donné. Mais j'estime que ce n'est pas un solde de tout compte, hein, c'est-à-dire que j'estime que vous m'avez tous, toute la famille des conventions, beaucoup plus donné que ce que je n'ai moi à donner, donc j'ai encore à donner, un jour on verra peut-être. On peut donner d'autres choses, on n'est pas obligé d'organiser des conventions d'ailleurs.
Ah oui, c'est trop facile.
Il faut les gens qui parlent, il faut les gens qui interviennent, il faut les gens qui parlent, il faut tout ça. Et je me rappelle quand même de quelque chose aussi, c'est Raymond. Lorsque j'ai annoncé que j'allais faire cette candidature, il m'a donné cette charte. Alors moi qui suis juriste et historien du droit, quand j'ai vu la charte, je me demandais si elle était octroyée. Je pense que c'est une charte octroyée, en tout cas c'est pas une charte libérale, hein, les amis, hein, soyez-en certains pour ceux qui seraient tentés. Et j'ai compris que pour faire une convention très ouverte, très, très vive comme ça, très vivante, il fallait des règles absolument drastiques, totalitaires. Je me suis retrouvé vraiment confronté à quelque chose de très strict. En tout cas, Raymond a été très strict, mais il a été avec tout à fait politesse et mesure. Et je dois dire que ça a parfaitement marché, puisqu'on a, en adoptant tes règles strictes et à la lettre, eh bien, on a eu un résultat qui me semble plutôt bon. Donc voilà, il y a vraiment des souvenirs. Après, il y a plein d'anecdotes, il y a plein de choses, il y a des moments surtout plus que des anecdotes. La remise des prix sous cette chapelle de Viollet-le-Duc, hein, je vois Annie qui...
Ah, oui.
Dans la parfaite lumière de Provence, tout ça a été absolument romantique, admirable et tout ça. Et donc voilà, c'était une super expérience et je suis bien content de faire partie, une petite partie en tout cas, mais de faire partie de l'histoire des conventions. Voilà.
Merci. Alors maintenant, tu sais ce que tu fais, tu passes le micro.
Tout de suite, le micro au gros
de gauche. Au grenoblois, au un des deux grenoblois.
Pierre, là, c'est très.
Oui, mais Pierre, il a déjà causé.
Oh, tu ne vas pas causer deux fois.
Si,
oh là 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 là.
Je déteste parler en public, en plus. Super bien. Alors, je commence comme tous les autres. Moi, j'ai ma première convention, c'est 2004.
En Trègue.
Qui était aussi l'année de création de la librairie, qui à l'époque n'avait pas de local, tenait dans un camion qui était graffé d'un côté avec un dessin détourné de M. Casa, qui est là-bas. Voilà. Oui, c'est pas bien. En plus, c'est trois dessins détournés.
Ouf, trois fois plus cher. Tu sors pas là.
Il y a du silence de Pierre Bordage. Couverture. Donc tous les bouquins tenaient encore dans une camionnette et je m'étais inscrit, je ne sais même plus comment j'ai entendu parler de cette convention, enfin bref, peu importe. Je suis tombé tout de suite dedans, le premier repas j'étais entouré de Roland Wagner, Raymond Miezi et Pierre Stolz, c'était un choc immédiatement. Le premier à m'acheter un bouquin à qui je lui ai immédiatement offert quand j'ai baragouiné quelques mots d'anglais avec lui, c'était Robert Shepley. Voilà. Donc, le début a été en fanfare, puis ensuite j'ai continué à venir avec mes petits bouquins, à trimballer des trucs, jusqu'à ce que l'idée chemine petit à petit, une fois que la librairie avait un local, peut-être à Grenoble, on a dit 2008, 2009, puis finalement 2010, allez, on s'y met. Avec l'aide de Gilles Goulet qui est là.
Debout.
Il y a le micro qui a été magnifique dans le rôle de portier de la convention de Grenoble. Il connaissait tout le monde, donc tout le monde le connaissait. Impeccable. Tout était nickel. On a bossé comme des tarés pendant 2 ans, heureusement avec un organisateur né qui est Nicolas Lefebvre, qui a plus été l'organisateur que nous. Nous, on s'est amusé. Je peux dire d'autres sur cette convention. La grosse galère, c'était le lieu et la bouffe. Ouais. Pourtant, elle fait des efforts. Hein.
Ouais, de la fantaisie, peut-être.
Est-ce que je dois parler de la fantaisie? Ah oui, l'innovation de Grenoble. Étant donné que je suis un libraire de l'imaginaire, j'ai entraîné les autres à ne pas être sur l'appellation SF stricto sensu et essayer d'élargir un peu. À d'autres gens motivés pour venir. Ça s'est pas trop mal passé pour la première fois.
Ouais, chacun dans son coin.
On verra si ça se refait après. Ça s'est refait, mais bon. Oui, c'est ça que je dis. Voilà. D'autres personnes?
C'est bon.
Une anecdote.
Je vais. Quand on fait le bilan, quand on est allé de nombreuses conventions, 23 à peu près. Quand on a les premiers souvenirs qui émergent chaque fois qu'on y repense, et les plus marquants la plupart du temps, alors pour des raisons diverses et variées, c'est lié, dans mon esprit, c'est lié à l'alimentation.
La bouffe, oui.
Non, mais tu m'étonnes.
C'est pour ça que je dis tout. Le premier souvenir marquant, le plus marquant, c'était Quétigny pour
deux repas complètement opposés. Il y a peut-être sans arrêt des trucs. Je me rappelle même de Bordeaux avec le couscous là, dont parlait. Il me semble que c'était dans une cave ou c'était quelque chose comme ça. Et je me rappelle même l'engueulage.
Je comprends.
Il y a beaucoup de choses liées à la bouffe, alors que ce n'est pas le sujet, pas le sujet principal.
Mais c'est mon point de vue, moi non.
Non, non plus, non plus. Je ne reparlerai pas de Vélin 2009, donc, puisqu'on est allé au-dessus, mais de Grenoble, où justement les deux choses qui me restent, c'est d'une part le numéro de duettiste ou de trio avec Jérôme, improvisé quand la vente aux enchères de Georges, d'un seul coup, a vu arriver Roland Wegner, qui a mis le souk dans l'affaire qui est déjà assez souk, comment peut-on dire, souqueuse.
Il le faisait à tous les coups, ça.
Et puis la deuxième, et ça c'est la transition avec la suite, la deuxième c'est d'une part le fait que l'organisateur annoncé pour l'année suivante, c'est-à-dire Alain Lebussy, m'avait demandé de prendre la vice-présidence du Prix Infini. Et puis, avant de partir, m'avait dit, tu sais, je dois aller remettre le prix de l'Université Polytechnique de Catalogne au mois de novembre. Je vais me faire opérer quelques semaines avant. Je ne suis pas sûr que je pourrais y aller. Même, je suis sûr que je ne pourrais pas parler. Donc, est-ce que tu peux me remplacer, ce que j'avais fait? Et puis, ben, malheureusement, quand ce prix a été remis, j'ai dû faire aussi son éloge funèbre parce que il n'était plus là. Et on s'est retrouvé tous avec une convention qui, pensions-nous, allait être portée avec autant de brio et de sérieux et de professionnalisme que les titres précédents, on s'est retrouvé avec une convention orpheline. Tout à fait. Et Raymond va en parler. On l'a fait vivre quand même.
Oui, ben voilà, on y arrive. Donc après Grenoble, j'ai d'ailleurs une anecdote, le jour où il est parti de Grenoble, Alain Lebussy a rangé ses bouquins, puis je lui ai dit, tiens, je voudrais un livre pour ma fille, c'était Les aventures de Rob Moban. Des parodies. Ouais. Alors, il a dédicacé à ma fille Anne, et ensuite on est allé à son enterrement en octobre. Plusieurs personnes où il nous a fait écouter post-mortem du Johnny Hallyday. Et je me souviens, je parle de maintenant. Et quand il nous a fait passer Pour moi, la vie va commencer, je crois que tout le monde a craqué. Je m'en souviens trop bien. Et bref, voilà. C'était l'anecdote, et il n'en a plus jamais dédicacé. Donc le dernier livre qu'il a dédicacé de sa vie, il est chez ma fille Hannes. Et ensuite, il a fallu faire redémarrer la convention. On a décidé que pour lui, elle aurait lieu quand même. Alors ses amis du comité, exactement, ça s'appelle Comité Consultatif pour la Promotion de la Lecture, dont il était président jusque-là, ont repris l'organisation matérielle avec son fils Olivier Lebussy et d'autres. Et moi, je me suis tapé le programme de la convention de titres. Donc, j'ai fait tout ça par internet, et puis finalement on a eu une convention, quoi. Ça a marché
à peu près tout à fait correctement. Tout à fait bien.
Mais c'est pour dire qu'on ne peut pas toujours raconter des trucs rigolos. Ouais. J'en profite pour dire que dans cette décennie-là, on a quand même bien dégagé. On apprenait à parler de Serge Delsem, il y a Jean-Pierre Hubert qui est parti faire du vélo dans les étoiles aussi, et puis donc Alain, Pierre Vincent, Jacques Boireau, tous des gens qui allaient plus ou moins aux conventions, Alain et Serge, oui. Et voilà, et ensuite on va passer à la suite, on ne peut pas toujours raconter des choses marrantes.
Oui, ah ben, on va essayer d'en faire des choses marrantes, voilà. Du coup, voilà. Mes nombreuses orléanautes, donnez donc un micro à Bernard Patrick, qui est là.
Donc, moi j'ai découvert les conventions, en fait ma première convention c'était à Lyon, en fait. J'étais éditeur, je faisais des salons régionaux, où j'étais très seul et je vendais rien du tout, et je revenais très stressé, très pas bien du tout. Et je ne sais plus comment j'ai vu l'annonce de convention, je me suis inscrit au dernier moment, et j'ai été accueilli de manière très chaleureuse. Ça m'a, Moi, ça m'a enflammé dès le départ. Et en même temps, à Orléans, on se réunissait tous les mois, un petit groupe, on mangeait ensemble. On mange toujours ensemble le dernier mercredi du mois. Et on causait, parce que Jean-Marie avait fait une convention avant moi, et il rêvait aussi de lancer ça. Donc, tous les mois, on disait, oh, on pourrait faire une convention. Et donc, en 2009, c'est Jean-Marie qui, à Belin, a proposé la candidature de ce mois et des Orléonaux. Enfin, de ce qui est devenu plus tard les Orléonaux.
Vous avez des commentaires à faire là-dessus ou vous n'êtes pas d'accord? Gilles, je suis sûr qu'ils ont des choses à dire tous les trois. Oui, voilà. Vous avez un micro.
Ils se réservent depuis 2 ans.
Ouais.
En fait, il a effectivement annoncé que il voudrait d'Orléans aller organiser une convention. Mais
ça marche. Hein,
ça. Oui, mais ça marche. Mais nous n'étions pas vraiment au courant. En fait.
Moi, je devais demander de le faire.
Les comptes se règlent.
C'est un petit peu plus compliqué que ça, parce que j'avais pensé à organiser une convention depuis très très longtemps. En 2006, j'avais fait ma première convention à Berlin. J'avais aucune idée de ce qu'était une convention quand je m'étais inscrite. En arrivant, je croise Jean-Marie qui me dit « Ah, Lauriane d'Orléans », je ne sais pas du tout qui était Jean-Marie, mais à cette époque-là, on avait une librairie spécialisée dans la science-fiction et l'imaginaire, mais Anne, bah, qui est la présidente des Orléonautes, à cette époque-là, vraiment vous accueillir tous les jeudis soirs, ce qui a initié aussi un petit peu et lancé la dynamique des repas. Jean-Marie lui avait dit qu'il allait à la convention, Anne me connaissait, lui avait dit, mais j'ai une autre cliente qui sera là-bas, et là je croise Jean-Marie, donc on sympathise, il me ramène, et sur le chemin du retour entre Bélin et Orléans, je pense que pendant à peu près 1 heure et demie, il nous a parlé du fait que ce serait bien de faire une convention à Orléans, que vraiment, on pourrait trouver du monde, que déjà on commence à en connaître. Donc ça date de 2006, en fin de compte, le projet de Jean-Marie de nous entraîner là-dedans.
Même avant.
Il vous a eu à l'usure.
Ouais, c'est ça. Même avant.
Je savais, parce que moi je connaissais Alain Grousset, et je le rencontre occasionnellement dans des gros camps de poire au livre, et je lui dis, tiens, la première convention que j'ai faite, c'est celle de la première du film. Et je lui dis, tu sais, je viens à une convention de science-fiction. Et là, la grosse me dit, t'aimes la bière? Je dis, oui. Elle me dit, c'est bon, tu vas adorer la convention. Je dis, bon, d'accord. Et après, je l'ai vu, et je dis, franchement, c'est vachement bien. Je lui dis, tu sais, j'ai envie d'en organiser une. Alors, il me dit, écoute, un conseil. Il te faut d'abord la logistique et un soutien de la bière. Si tu as ça, une limoga, tu peux y aller.
Oui.
Donc, un jour, on est allé donc, à ce mois. On est allé assister à un petit spectacle d'un conteur africain. Et moi, j'ai vu la salle des fêtes de ce mois. Ah, j'ai dit, c'est un lieu pour faire une convention. Non, c'est bon. Oh, il y a des strats. Ah, c'est bon. Non, j'ai le lieu pour la convention, le soutien de la mairie. On se débrouillait. Et après, c'est bon. Donc, avec Anne, donc son magasin qui s'appelait Troll de Loire, on a commencé un petit peu à traîner. Puis moi, pendant les conventions, je disais souvent. « Oh, je crois qu'on va en organiser une à ce mois, côté d'Orléans. » Et tout le monde me dit « Ah bon, c'est toi, dans 2 ans, la convention ?»« Ouais, il y a de fortes chances. » Et bon, j'étais le seul à savoir, quoi. Et après, je suis rentré. Patrick me dit « C'est pas vrai, t'as pas dit qu'on a organisé une convention, hein ?»
Non, non, je l'ai pas dit, mais enfin bon, tout le monde le sait.
Il m'en a parlé plusieurs années de suite, il est mort, c'est sûr.
Et après, on s'est lancé dans le truc, on s'est dit « Mais c'est vrai qu'on a eu une organisation... » Ce que je disais un petit peu à Jean-Jacques, c'est vrai que nous, on était assez nombreux, on avait chacun nos petits domaines. Et honnêtement, c'est vrai qu'on pense, hein, d'après les échos qu'on a eu par la suite, que ça s'est très bien marché parce que on était nombreux, chacun se partageait. Comme je reviens sur ce que disait M. Dardinier,
moi,
je m'occupais de la bouffe, sachant que c'était bon, la bouffe et la bière. Une fois qu'on a ça, c'est bon.
Je me rappelle la question bizarre qu'on vous a posée. Est-ce que vous voulez de l'andouillette de
Jarjo? Ah oui,
Jarjo.
Ça m'a marqué, ça c'est. Est-ce que vous voulez de l'andouillette de Jarjo ou de l'ossobuco de dinde? Je me suis demandé où il trouvait le savoyard dans la dinde.
C'est prêteur. Hein. Disons qu'on aurait voulu faire l'andouillette de Jarjo pour tout le monde, mais on sait très bien que.
Il y en a qui en veulent pas.
Voilà.
D'ailleurs, je me souviens avoir vu ce message et m'être dit « Merde, j'aime ni l'un ni l'autre. »
C'est là vous voyez des questions typiques qui reviennent dans beaucoup de conventions, parce que il y a quand même une chose qui n'est pas très importante quand on organise la Convention nationale de science-fiction, c'est la science-fiction.
Parce que ça, bon, bah, ça, on s'en occupe bien. Pratiquement. Ouais. Je ne dirais pas que ça vient tout seul, mais c'est évident. Par contre, l'important, c'est tout ce qui est matériel, ouais. logistique, ça. Et la bouffe, la bouffe. Pour le reste, l'ambiance, on s'en charge.
J'ai un souvenir mémorable aussi, c'était à Grenoble, on sortait de manger, puis j'ai vu Jean-Pierre Léon s'éloigner.
Ah, c'était au repas de gala. C'est...
Avec un kebab frit.
Non, il est parti rechercher en ville. Mais c'est pas de la faute à Frédéric.
Bernard Dardenio, plutôt Gilles Goulet, passe le micro à la personne en t-shirt blanc qui est derrière Bernard. Et parce que nous en arrivons à la convention d'Aubenas. Mais si, tu vas dire en gros comment on a eu l'idée.
Comment avez-vous eu l'idée?
Bah, l'idée, elle est venue que je me souviens plus chercher quelqu'un désespérément.
C'est comme chaque année depuis 20 ans.
Voilà. Non, maintenant ça va mieux.
Non, maintenant ça va mieux. Et je trouve toujours.
Et que j'ai eu l'éclat de génie en me disant, mais mon frère, qui est l'adjoint à la culture d'Aubenas, je savais qu'il y avait le centre culturel, je sais qu'il servait qu'il cherche beaucoup d'activités qui sont très actives.
Culturel.
Donc j'ai demandé culturel. À mon frère si ça ne posait pas de problème, dans la mesure où on demandait une subvention à l'Amérique, je suis sa sœur et que ça pouvait paraître quand même un peu.
Moi, je suis pas sa sœur, alors ça
va. Voilà.
Donc, c'est vrai qu'il m'a dit, écoute, tu te montres pas trop. On lui a dit, bon, il faudra créer une association pour demander
oui,
une subvention. Il a dit, une association, tu as créé la 40e, ça s'imposait. Et puis, il m'a dit, écoute, tu n'es pas au bureau. Voilà, oui, oui. Non, parce qu'il a dit, si tu
fais une feuille
de demande de subvention qui passe avec les membres du bureau,
tu es vice-président.
Ça va être louche. Voilà, et après, il a fallu trouver un siège social dans la région. Heureusement, ma sœur habite là, un village des environs. Donc, on a mis le siège social de la 40e à Saint-Privat. Et on a, comme ça, on a jonglé entre les adresses de Lambesque, de Saint-Privat, etc. Voilà. Et puis, pendant 2 ans, on a travaillé avec l'équipe administrative du Bourneau, qui petit à petit nous ont constitué les dossiers, nous ont dit comment ça fonctionnait et tout. Ils ont été vraiment épatants, extraordinaires. On est les embêtés régulièrement avec nos questions à la con. Et puis voilà, donc petit à petit ça s'est fait, la mairie nous a donné une subvention, on nous a ouvert le Bourneau. Je voudrais signaler quand même que les gens qui travaillent pour nous en ce moment sont des gens qui sont rentrés de vacances, parce que le Bourneau n'entre officiellement que le 2 septembre, wow. Donc ça c'est quand même vraiment sympa. Je ne sais pas combien ça va coûter en heure sup à la mairie, mais enfin on verra. Je verrai avec mon frère si les relations sont tendues ou pas. Et puis, voilà, petit à petit, la subvention, bon, après, vous connaissez le problème, il a fallu mettre un programme, trouver des invités, voilà, faire un site, c'est Guisson qui nous l'a fait, merger, on dit, non, il est, voilà, et ça s'est mis en place, et bon, on a trouvé que le lieu était quand même vraiment épatant pour faire la convention. Voilà.
Avant de passer la parole à Bernard, je complète un peu ce que dit Mireille. D'une part, l'association à la 40e a un président. Que voici, Hugo Balagamba, alors un vice-président, que voici, le président a quasiment jamais rien signé, c'est toujours moi qui signe, parce que je suis trésorier de la chose,
homme de paille, responsable.
Nous avons une secrétaire qu'on a vu 3 fois, on verra peut-être, je ne sais pas s'il y a bien. L'autre élément que je voulais donner, c'était qu'un des aspects positifs de Venas, c'était le suivant. Au bout du boulevard Gambetta, que vous avez ici, même pas tout, presque au bout, il y a un magnifique hôtel qui s'appelle Le Zévenol, où il y a 40 chambres à prix modique, avec un parking privé, et qui a eu l'excellente idée de fermer ses portes au mois de décembre dernier. On était très contents. On était très contents. Donc, c'est clair, toujours, Raymond dit à la fin, on a dit, mais. L'hôtel, ils me disent qu'ils seront fermés. Oui, je lui dis, quoi ?
Et il y en a un autre qui est un peu plus là, qui avait fait.
Alors lui, non, mais lui, il n'était pas bien. Il n'était pas terrible. Le premier était parfait. Bon. Donc, ça nous a posé problème. On a donc consulté le Collège Saint-François, parce qu'on a essayé de voir ce qu'il y avait dans les environs. Et le Collège Saint-François a dit, non, on a un groupe, on a des groupes tout l'été, on ne pourra rien vous faire. On leur a laissé notre téléphone par hasard. Et heureusement, parce qu'ils ont rappelé en disant, finalement, on a un désistement. Vous pouvez y aller, il faut que vous soyez au moins 20. Total, au Collège François, il y a 35 personnes, je crois. Bernard Dardenio.
Oui, je voulais parler de la convention d'Aubenas.
Yes.
Sans aller jusqu'à faire un bilan.
Non, j'ai un peu.
On peut déjà dire une chose, c'est que vous avez déjà placé en tête sur le plan de la qualité de la bière. C'est quand même
pas mal. Ah oui, la
tu sais remplir un fût à bière, mettre en route un fût à bière, toi ? Qu'il va falloir remplir à nouveau.
Il va le faire.
Voilà. Il y a des stages, mais ça ne m'étonne pas. Moi, j'ai eu une démonstration, alors. Y a-t-il d'autres interventions avant qu'on ouvre un tout petit peu le dossier du futur? Vous savez que l'année prochaine, insatiable, Pierre Gévard remet le couvert, pas tout seul cette fois-ci, si j'ai bien compris, ouais. À Amiens, autour de Jules Verne. Donc tu nous en diras plus, un mot plus, parce qu'il y a...
Non, ça fait, c'est prévu pour demain.
Ben oui, c'est pour ça. Je dis, tu nous diras un mot demain, en plus, c'est en détail. Voilà. Que demain, nous déciderons aussi... Oui, si, pour lui, oui. Que demain, nous déciderons pour tous nos ans. C'est ce que je veux dire. J'en dis pas beaucoup plus. Et que je sais, parce que je suis bien informé, et qu'on me déglise des choses vraies, que déjà des proto-candidatures commencent à s'éveiller pour les années suivantes. Ça, mais je n'en dirai pas plus. C'est un secret. Voilà. Et pour, le débat a été lancé par notre ami Jean-Pierre Fontana, qui tient absolument à apporter une dizaine de précisions supplémentaires, sauf que peut-être Anouk veut dire quelque chose d'autre.
Et il nous a pas dit, il nous a pas expliqué.
Si, ouais. Nous l'a dit.
Si, si, bah, je l'ai plus ou moins dit. Enfin,
allez, vas-y, allez, vas-y. Donne-nous les quelques dizaines de précisions que tu voulais nous donner.
Oui. Bon, tout d'abord, puisque Philippe se trouve là et il n'était pas là tout à l'heure, mais je voudrais quand même le remercier infiniment parce que tout d'abord, le festival que j'avais réalisé en 1972, c'est lui qui nous avait fait, même je crois gracieusement, l'affiche. Qui nous a refait l'affiche du congrès de 1974. Et là, avant de donner la réponse, je voudrais quand même dire deux, trois petites choses, c'est-à-dire rendre un peu un hommage posthume à énormément de gens qui étaient à cette première convention, en particulier donc Michel Demuth, Jacques Guamard, Jacques Sadoul et plein d'autres qui nous ont quittés. Heureusement, Michel Jury est toujours de ce monde. Et j'ai eu en fait le plaisir de lui attribuer le premier Grand Prix de la science-fiction française avec son roman, donc Le Temps Incertain, qui a été le début d'une carrière absolument extraordinaire. Alors maintenant, pour répondre à la question, en effet, on s'était demandé, parce que... En principe, on devait l'appeler convention. Et puis on s'est dit, ouais, mais les Américains, les Anglais, tout ça, ils appellent ça convention. On pourrait peut-être trouver autre chose. Et on a pensé au mot congrès. Et c'est la raison pour laquelle on l'a appelé le premier congrès. Par contre, quand Jacques Rouvérole a pris la suite, il a préféré reprendre le mot convention. Et à Angoulême, c'est devenu la deuxième convention française. Voilà comment les choses se sont passées. Alors, oui. Ah, c'est possible, oui. Enfin, bon, voilà, ce sont les aléas d'un parcours. Alors, je voulais simplement dire, parce que s'il y en a d'autres après qui veulent conclure, moi, en tout cas, je voudrais quand même donner, puisque déjà, au bout de 40 ans, comme je disais tout à l'heure, quand je l'ai créé, j'aurais jamais imaginé que 40 ans plus tard, les conventions et le prix que j'avais créé existeraient toujours. Ça, c'est extraordinaire quelque part. Hein. Et donc, je ne peux que souhaiter longue vie aux conventions qui vont suivre et qui se continueront sûrement après moi et après nous. Enfin, je l'espère bien. Et je voudrais donner presque, pas le mot de la fin, mais je me souviens justement de cette convention où il y avait André Ruellan, qui est lui aussi encore toujours de ce monde, et il avait conclu un débat en disant « Nous sommes tous partis pour y rester ».
Merci à tous. Le bar est ouvert.
Mon Dieu. Excuse-moi.
Alors, la séance n'est pas levée.
Non, juste un rappel, un petit souvenir, c'est-à-dire, si je ne me trompe, la première fois où on a fait un site web, c'était en 99 à l'ODF, c'est moi qui m'en suis occupé et qui a repris en 2001 la première de TILF. Mais moi, je voulais vous poser une question. C'est, vous n'avez pas parlé des sous, finalement. Un petit peu votre expérience de trouver... Il n'y a pas ce genre de choses.
Si, j'en ai parlé. La première des choses, c'est de demander quelques subventions à la municipalité ou alors peut-être à d'autres personnes, la région, je ne sais pas, tous ceux qui s'occupent de culture. Une fois qu'on a une petite aide, il faut se débrouiller d'avoir des choses pas chères, gratuites, bon, une salle mise à disposition gratuitement, des trucs comme ça. Il faut négocier avec le traiteur, Il faut s'entendre aussi parfois sur les transports. La personne prendre l'avion en première classe, non, peut-être pas. Bon, voilà.
Il faut demander des sous.
Il y a eu des sous
parce que ça met vraiment de l'huile dans les rouages. Hein, c'est...
Mais c'est le nerf de la guerre.
On a raté deux ou trois occasions comme ça, on s'en mord les doigts.
Oui, enfin bon, les deux conventions de Bélin, nous avons eu l'aide de la municipalité qui a mis des locaux à notre disposition. J'ai voulu rester complètement indépendant, c'est-à-dire qu'elles se sont quand même autofinancées. Pour être précis, la première convention de Bélin, j'en suis sorti avec un excédent de 2000 euros qui a été absorbé par la deuxième, suite en particulier à l'annulation inopinée de l'avenue de deux invités syriens pour lesquels les billets d'avion avaient déjà été payés. Mais voilà, donc celle de l'an prochain, par contre, c'est vrai que c'est Muriel Savreux qui a plus cette culture de la subvention est en tournée dans les collectivités depuis le début. Mais quant à moi, je préfère rester indépendant et ne rien devoir à personne.
Mais nous ne devons rien à personne.
C'est pas qu'est-ce qu'on veut. En général, ce n'est pas le financement qui fait la qualité d'une convention, non. Pour nous, j'entends bien. Ouais. Non, pour l'organisateur, c'est très important, évidemment.
Non, mais c'est bien.
Alors, je répète maintenant, sauf si quelqu'un veut encore intervenir, notre réunion est terminée, le bar est ouvert. Je vais me précipiter pour charger le deuxième fût de Bocanel.
C'est parce que...
Donc, donnez-moi 5 minutes, mais c'est tout. Okay.
Bon, les experts, allez les... Bon.